Palace et Chéri Bibi, chapitre 5. Comment Chéri Bibi était mort. Dans le dortoir, Palace tentait par un effort suprême de se débarrasser de ses liens. Il ne pouvait croire à la mort de Chéri Bibi. Du reste, c'était l'avis général des bagnards. Pensez-vous que Chéri Bibi s'est laissé clamser comme ça? Les bruits du dehors se rapprochèrent encore. Les bagnards ne prêtaient plus aucune attention à Palace. Ils étaient tout entiers au drame qui se jouait au fond de la nuit et dont ils essayaient de saisir ou de deviner les péripéties. L'horreur de la situation redonnait des forces à Palace. Le désir d'en finir, soit par l'évasion, soit par quelque éclat qui entraînerait la fin de tout cela, décuplait soudain son énergie, un instant fléchissante. Oui, plutôt la mort, même de la main de Pernambouc ou de Monsieur Désiré, que de continuer à vivre ainsi. Sous son effort puissant et continu, ses liens se relâchaient. Lentement, avec mille précautions et sans qu'on pût surprendre un seul de ses gestes, il finit par se défaire de sa corde. Il guettait le moment où il allait sauter de son hamac et se jeter dans le trou, au bout duquel il espérait encore trouver Chéri Bibi. Rapide, il fut soudain sur ses pieds. Mais dans l'instant, de nouveaux coups de feu éclatèrent dehors, en même temps qu'un grand tumulte. Palace avait eu une seconde d'hésitation. Cela avait été suffisant pour qu'il eût tous les fagots autour de lui. « Les sous-cornes tirent sur Chéri Bibi! Chéri Bibi est pincé !» s'écriait-il. « 22, voilà qu'on crible à la grime !»« Attention, voilà qu'on crie à la garde !»« Avant Saint-Broquille, minute, nous allons avoir les artoupans sur le dos !» Et ils firent disparaître la corde et rajustèrent soigneusement la dalle dont ils mastiquèrent les joints avec de la mie de pain mouillée et enduite de poussière. À l'extérieur, on entendait toujours des galopades, des cris, des appels, des coups de sifflet et les blasphèmes des gardes chiourmes. Enfin, tout ce bruit se rapprocha encore de la case et la porte du dortoir fut ouverte. Une douzaine de gardes, armés jusqu'aux dents, se ruèrent au milieu des bandits et l'on entendit derrière eux la voix de l'officier de surveillance qui commandait l'appel. Les fagots s'étaient mis chacun à la place de son hamac. L'officier put constater à l'instant qu'il y avait cinq manquants. Chéri Bibi, Fric-Frac, Arigonde, le Caïd et le Bêcheur, lesquels ne répondirent point à l'appel de leur numéro. Palace, lui, répondit à l'appel du sien, le numéro 3213. L'as de carreau, fou de rage, se rejeta dehors. Les cornes reçurent l'ordre de garder le dortoir avec deux hommes et d'en mettre 10 autres autour de la case. « Cette fois, je suis bien perdu, » pensait Palace. Épuisé par tant de luttes et d'angoisses et vaincu par la ruine de son suprême espoir, il se laissa tomber sur son sac de galérien, tandis que les deux artoupans, laissés dans le dortoir par l'as de carreau, essayait de deviner par quels moyens les cinq forçats avaient pu s'enfuir. La bande de bagnards riait sournoisement de la vanité de leurs recherches. L'un d'eux fit assez haut pour être entendu. « Plus souvent qu'ils l'auront, Chéri Bibi, ils crèveront tous avant lui, pour sûr. » « Et moi, je vous dis que Chéri Bibi a craché sa cartouche, est mort. » beugla l'un des gardes chiourmes qui était chargé de surveiller le dortoir d'où les cinq forçats s'étaient évadés. « Je le sais bien, peut-être. J'ai vu son cadavre. »« T'entends ce qu'il dit, l'artoupan ?» souffla à Palace Monsieur Désiré. « Il dit que c'est vrai que Chéri Bibi a clamsé, qu'il a vu son cadavre. » Palace frissonna. Il aimait Chéri Bibi. C'était singulier, cette affection d'un garçon comme Palace pour un bandit de la carrure de Chéri Bibi, qui apparaissait à tous comme l'incarnation du crime sur la terre. Mais ce n'était pas inexplicable. Il avait trouvé chez ce monstre une pitié pour son infortune qu'il eut en vain cherchée ailleurs, au bagne et hors du bagne. Sous des dehors d'épouvante, Chéri-Bibi lui avait révélé des sentiments d'une délicatesse insoupçonnable. Chéri-Bibi l'avait aimé comme un frère et protégé comme son enfant. Pallas avait souvent pensé qu'il y avait autre chose qu'une bravade au destin dans ce mot « fatalitas » que le bandit jetait si souvent vers les cieux. La vie de Chéri-Bibi était un mystère, au fond duquel nul autre que lui-même n'était jamais descendu. Que connaissait-on de Chéri-Bibi ? Un bras qui se lève et qui frappe. Mais entre ces deux lueurs de couteau, qui laissaient derrière elles deux flaques de sang, c'était la nuit, obscure comme l'abîme de son âme. Pourquoi donc son chemin avait-il été si rouge ? Il avait expliqué en quelques mots à Pallas par quelle affreuse ironie le destin lui avait fait frapper un homme qu'il voulait sauver. Tout était parti de là. Tout ! Pallas avait été quelquefois curieux de se pencher sur ce « tout ». « Ne regarde pas là-dedans, l'enfer y bouillonne !» lui répliquait Chéri-Bibi. Et puis le bandit se levait et, avec une ironie farouche, « Tu ne voudrais pourtant pas que je t'explique tous mes crimes, il y en a trop !» Et il ajoutait dans un rire gigantesque, « Je t'affirme que je suis inexcusable !» « Pigez-moi Pallas qui pleure, parce qu'il croit que Chéri-Bibi est mort !» Ainsi, Monsieur Désiré continuait de torturer Pallas. Celui-ci ne voulait se rappeler de Chéri-Bibi que cette affection qu'il avait si souvent sauvée, lui, du désespoir, et aussi cette action mémorable qui avait sauvé Chéri-Bibi du bourreau, quand, repris en France, après des aventures dont l'une des plus retentissantes avait été la capture du vaisseau qui transportait les forçats à la Guyane, il avait été jugé à nouveau et cette fois condamné à la peine de mort. Chéri-Bibi avait raconté à Pallas que pendant tout le procès, il n'avait pas ouvert la bouche. Son avocat avait plaidé malgré lui. Quand la sentence fatale avait été prononcée, l'accusé avait remercié les jurés du service qu'ils lui rendaient à lui, en même temps qu'à la société. Et, le soir même, comme un fourgon ramenait Chéri-Bibi dans la prison centrale de la ville où il venait d'être jugé, le condamné avait entendu des cris désespérés et, en descendant de sa sinistre voiture, il avait vu que l'hôpital qui se trouvait sur la même place brûlait. Il avait eu vite fait de se débarrasser de ses gardiens et de bondir dans la fournaise. Il sauva à lui seul ce soir-là plus de 60 personnes. « Le feu, disait-il, ça me connaît. » Il ne le quittait que pour y retourner et revenir avec ses précieux fardeaux. Quand il n'y eut plus personne à sauver, il revint se constituer prisonnier. Sa chair fumait. Dans toute la France, il n'y eut qu'un cri. La grâce. Il fut gracié. Fatalitas, avait prononcé l'homme quand on était venu lui en apporter la nouvelle. On a donc encore besoin que je tue quelqu'un sur la terre. Miracle. Les pleurs de Pallas avaient fini par attendrir ces bêtes féroces. Ne te fais pas saigner. Ne te fais pas de chagrin. Pallas, tout ça c'est des vannes. On te dit qu'il n'est pas encore clampsé, Chéri-Bibi. D'abord, il ne peut pas casser sa canne. Il y a des types comme ça. Ils ont beau faire, quand la blafarde les voit, à fout le camp. Aussitôt, il y eut 20 voix pour se joindre à celle qui venait consoler le malheureux Pallas. L'idée d'une catastrophe de cette taille, la mort de Chéri-Bibi, n'entrait décidément dans l'idée de personne. Il fallait être artoupant ou mauvaise gale, comme Monsieur Désiré, pour imaginer une pareille stupidité. Il n'était pas encore né celui qui descendrait Chéri-Bibi. Chéri-Bibi avait toujours fait ce qu'il avait voulu. Quand le pied le démange, il n'y avait rien à faire. Il savait se donner de l'air. Les sous-cornes en savaient quelque chose. On l'avait vu, soumis à une surveillance des plus sévères, sans cesse sous les yeux d'un garde-chiourme qui n'avait d'autre occupation que d'observer ses mouvements, eh bien, Chéri Bibi trouvait moyen de vaincre tous les obstacles. Bien mieux, il annonçait à l'avance qu'il s'en irait. Aujourd'hui, à l'heure dite, c'était chose faite. Et s'il revenait, s'il se laissait reprendre, c'était bien sûr parce qu'il ne pouvait pas se passer de l'air du pré, du bagne. Comme il dit, le bagne, c'est mon foyer. C'était bien connu que Chéri Bibi avait toujours sur lui son nécessaire, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour s'évader quand ça lui chante. Et on ne sait jamais où il cache tout ça. Une fois pourtant, il s'était laissé prendre. Il avait mis son trousseau de départ dans une forme à souliers qu'il avait recouverte d'un morceau de cuir, cloué comme s'il avait voulu commencer une chaussure. Mais la forme était à pivot et contenait une collection soignée comme nécessaire. Une paire de moustaches et des favoris, un tour de cheveux, un ciseau à froid, une bastringue, petite scie propre à scier les fers, faite d'un ressort de montre. Un petit miroir pour la toilette, du fil, des aiguilles, une plume et du papier. Souvent, il laissait traîner sur son banc sa forme à souliers. Quelquefois, il la ployait sous son bras en se rendant au travail de la chiourme. Ça avait été un événement le jour où l'as de carreau, qui voyait cette forme-là depuis quelque temps, avait fini par trouver que cet ouvrage de cordonnerie avançait trop peu et l'avait confisqué. Cette fois-là, on avait découvert le pot rose. Mais Chéri Bibi avait bien d'autres tours dans son sac. On n'en viendrait jamais à bout, c'était sûr. À ce moment de la discussion, la porte s'ouvrit et un sous-corne entra. Il venait demander si l'on avait enfin découvert le moyen d'évasion des cinq compères. Mais ses deux collègues lui répondirent en haussant les épaules. « Tout de même, ils ne se sont pas envolés !» reprit le nouveau venu. « Va le demander à Chéri Bibi. »« Chéri Bibi est mort !»« Ha ! Vous voyez bien !» s'écrièrent joyeusement les deux artoupans qu'on avait laissés en garde dans la case. « Nos clients ne veulent pas le croire !»« Il est mort, dans les bambous. C'est le commandant lui-même qui commandait la battue, et c'est Bordière qui l'a tué. » Il l'a eu au bout de son fusil. Paraît qu'il l'a culbuté comme un lapin. Ah, y a pas d'erreur. Fallait bien que ça finisse comme ça. Au revoir, je me sauve. Oh, ça craque là-haut, tu sais. Vous avez entendu le canon de l'île du diable? Il y a du gros temps dans la chiourme. Mais il y aura de la gratte pour ceux qui découvriront les quatre autres. Bordière a de la veine. Il va se faire un bon mois avec la peau de Chéri Bibi. Et l'homme était reparti. La porte fermée, il y eut une véritable clameur où se manifestaient l'étonnement, l'incrédulité, l'impossibilité où l'on était de concevoir une pareille énormité. Chéri Bibi se laissant culbuter comme un lapin. Soudain, comme les artoupans étaient en train de discuter sur l'événement dans le fond de la case, une dalle derrière eux se souleva doucement. Et Pallas qui pleurait, et ceux qui se trouvaient derrière les gardes-chiourmes, virent apparaître la gueule effroyable et terriblement vivante de Chéri Bibi. Non, Chéri Bibi n'était pas mort, il n'était même pas blessé. Cela avait été encore un de ces trucs de basculer sous le coup de fusil de l'artoupan, comme s'il avait été frappé à mort. Et cela pour attirer tous les gardes loin de l'orifice de son souterrain, qu'il voulait regagner coûte que coûte, aux fins de rejoindre Pallas. Ce qu'il avait prévu était arrivé, et tous, ayant reconnu la silhouette de Chéri Bibi qui s'affalait en tournant sur lui-même, s'étaient précipités en criant leur victoire. Le garde Bordière avait escaladé joyeusement le talus, supputant déjà la gratification qu'allait lui valoir un coup pareil. On lui serait certainement reconnaissant d'avoir débarrassé le bagne d'un animal aussi difficile à tenir en cage. De tous les côtés, on accourait. Le commandant lui-même se précipita. Et le bruit se répandit de proche en proche dans l'île que Chéri Bibi était enfin retourné aux enfers. Il se trouva même, comme nous l'avons dit, des gardes pour affirmer qu'ils avaient touché son cadavre. La vérité était qu'on le cherchait encore en vain. Bordière, l'heureux Bordière, qui avait réussi ainsi beaucoup, devenait enragé de ne plus en retrouver même la trace hors du bambou. Il donnait des explications. « Je l'ai vu tomber ici. Il a poussé un grand cri et s'est affalé. Regardez tout ce sang. Il est certainement blessé à mort. Il doit être allé crever un peu plus loin. » Cela touchait au sortilège, au miracle. Le commandant ne disait plus rien, ne savait plus ce qu'il fallait croire. Peut-être Chéri Bibi avait-il des complices parmi ses hommes. Peut-être en avait-il acheté quelques-uns. Est-ce qu'on savait avec un être pareil? On racontait qu'il avait toujours de la poudre d'or sur lui. Où? Comment? On n'en avait jamais rien su. Certains même prétendaient qu'il cachait comme il voulait 30 louis d'or dans son estomac. Cet homme mangeait de l'or, l'avalait, s'en débarrassait, le cachait, le reprenait quand il voulait. Des tas d'histoires auxquelles les autorités n'avaient pas cru. Mais maintenant, le commandant trouvait tout possible. Cependant, il ne s'était passé dans l'occasion qu'une chose fort simple. Chéri Bibi s'était glissé sous bois, jusqu'au réduit et jusqu'à son trou. Si l'on avait trouvé du sang sur les bambous, c'est qu'il y avait essuyé ses mains, rouges encore du sang de Tarasque. Pendant qu'on cherchait partout un cadavre, il était dans le souterrain. Et voilà comment sa tête surgissait tout à coup dans le dortoir, où la nouvelle de sa mort était l'occasion de tant de discours. D'un coup d'œil, il jugea la situation. Il vit les Artoupans, il vit Pallas, il vit ses confrères Fagot, qui, médusés par cette figure formidable, retenaient l'immense éclat de rire dont ils étaient prêts à saluer une apparition qui donnait un si parfait démenti aux histoires des sous-cornes. Ce fut rapide. Pallas se glissa jusqu'au trou et y disparut. Cependant que Chéri Bibi tenait encore tout le monde sous son regard de fauve. Et puis la dalle retomba. Et quand les gardes Chiourme se retournèrent, il n'y avait rien de changé dans la case. Si, il y avait encore un forçat de moins. Ils mirent quelque temps à s'en apercevoir. Ce fut Monsieur Désiré qui leur donna l'éveil en disant à mi-voix et de façon à n'être entendu que d'eux. « Tiens, où est Pallas ?» Alors, ils le cherchèrent. Cette fois, leur responsabilité était directement en cause. Ils n'avaient plus envie de plaisanter. Et quand ils furent certains que celui-ci aussi venait de s'évader, ils entrèrent dans une fureur sombre. Encore une fois, ils bousculèrent tout dans le dortoir, avec 1000 menaces et blasphèmes. Ils devenaient à leur tour enragés quand un regard de Monsieur Désiré les renseigna. Ce regard leur montrait une dalle, et comme cette dalle n'était pas recellée, comme ses joints étaient en poussière, ils découvrirent toute l'affaire du coup. Ils firent sauter la dalle et furent en face du trou. L'un d'eux s'y précipita en ordonnant à l'autre de rester à son poste. Et l'on entendit aussitôt 2, 3, 4 détonations. Le garde Chiourme, s'avançant dans le souterrain, tirait sur les fugitifs. Toute l'administration pénitentiaire était maintenant sur pied. Sur l'ordre du lieutenant, le service des bureaux téléphonait à la sous-direction des autres îles pour annoncer cet événement déplorable, l'évasion de 6 forçats, et pour que l'on établît toute mesure nécessaire à leur reprise avant qu'ils aient pu, par quelques moyens impossibles à prévoir, gagner le continent. Le canon de l'île du Diable, placé sur la plateforme de la petite tour qui surmonte les baraquements pénitentiaires et qui avait été hissé là lors de la captivité du capitaine Dreyfus, venait de tonner et annonçait ainsi la fermeture de la rade. Tout ce qu'il y avait de garde-chiourme dans les îles, toute la force dont disposait l'administration, s'était mis à la recherche des introuvables bandits. L'officier de surveillance, que les fagots avaient surnommé « l'as de carreau », y mettait un acharnement plein de rage, et son exaltation était bien compréhensible. Chéri Bibi lui avait joué déjà de fameux tours. Mais ce dernier tour-là, dont les étranges péripéties s'étaient déroulées sous son nez, dépassait l'imaginable. Le brigand lui avait tué Tarasque à la lueur de son cigare. Revenant de sa tournée d'appel dans les dortoirs, avec la certitude nouvelle que d'autres forçats avaient suivi Chéri Bibi dans sa fuite, et sans qu'il eût pu se rendre compte du chemin qu'ils avaient pris pour s'évader, l'officier ne décolérait plus. Il alla rejoindre, avec sa troupe, le commandant qui achevait sa battue, sans avoir aperçu, lui non plus, l'ombre d'un fugitif. Bien entendu, personne ne croyait plus à la mort de Chéri Bibi. Le commandant, qui venait d'être au courant de l'importance de l'événement, cria au lieutenant « Il faut prévenir Cayenne, Kourou, Sinnamary, Saint-Laurent et tous les postes de la côte. C'est déplorable, mais il n'y a pas à hésiter. Les bandits, pour faire un coup pareil, devaient pouvoir être sûrs de quitter la rade, et ils ont dû s'entendre avec quelques bâtiments de passage. Qu'est-ce que c'est que cette goélette hollandaise qui est venue jeter l'ancre sur rade avant-hier soir? Peut-être leur a-t-elle détaché quelques canots. Peut-être ont-ils rejoint quelque embarcation à la nage. » « Espérons dans les requins, » fit l'autre. « En attendant, pendant que nous cherchons Chéri Bibi ici, les autres sont peut-être déjà hors de nos eaux. Allez vite téléphoner à Cayenne et à Kourou. » « Mon commandant, permettez-moi de vous demander s'il ne vaudrait pas mieux que, pendant que l'on téléphonera à Cayenne, je me rende moi-même avec la chaloupe à pétrole sur le continent. J'aurai vite atteint Kourou, qui n'est qu'à 13 kilomètres, d'où je ferai passer des ordres pour Sinnamary et Saint-Laurent, et je veillerai moi-même à l'exécution des mesures à prendre. Sans compter que si je rencontre nos fagots en route, je puis les ramener du coup. » Vous avez raison. Prenez avec vous deux surveillants bien armés et fusillez-moi tout de suite tout ce que vous rencontrerez et qui n'obéira pas aux ordres. » L'officier salua et se dirigea hâtivement vers le môle. Nous avons quitté le Parisien, Fric-Frac, le Caïd et le Bêcheur sous le rouf d'avant de la chaloupe. Ils y étaient toujours, dans un état d'esprit qu'il est assez facile de se représenter. Ils avaient eu le loisir de se rendre compte que leur évasion n'était plus un mystère pour personne. Les bruits de l'île, la galopade des gardes-chiourmes, enfin le coup de canon de l'île du Diable finissaient de les renseigner. Fric-Frac conclut tout haut. « Nous sommes fichus. Rien à faire dans ce grafouilleur qu'on ne peut pas manœuvrer. Si encore Chéri Bibi et Pallas arrivaient, on pourrait peut-être s'entendre. » Au lieu de Pallas et de Chéri Bibi, ils virent accourir le lieutenant et deux sous-cornes, armés jusqu'aux dents, qui se jetèrent dans la chaloupe. Les fugitifs n'avaient pas bougé. Dans l'obscurité profonde où ils étaient entassés, ils pouvaient encore espérer de n'être point découverts tout de suite. C'était leur dernière chance qu'on ne vint point sous le rouf y chercher un bout de filin ou tout autre objet nécessaire à la manœuvre. Ils n'en respiraient plus. Le mécanicien ne s'étant pas trouvé là, c'était un bonheur pour les forçats que l'officier de surveillance fût parti sans lui. Il allait être occupé par sa machine pendant tout le voyage. Déjà, il avait sorti de sa poche la fameuse pièce du moteur et la remettait en place. Les artoupans étaient plus redoutables, mais voilà que, sur l'ordre de l'officier, ils se glissaient déjà au-dessus du rouf où ils restaient, un doigt sur la gâchette de leur fusil, l'œil au guet, fouillant la nuit. Les bandits les entendaient remuer au-dessus d'eux. Ce fut l'officier lui-même qui détacha les chaînes et les rejeta, d'un geste, au fond du rouf, où elles vinrent tomber sur Fric-Frac et le bêcheur, qui ne dirent pas « ouf ». Et la chaloupe se mettait en marche. Elle faisait d'abord le tour de l'île à toute vitesse. Évidemment, l'as de carreau ne voulait point quitter ses eaux sans avoir accompli cette inspection circulaire qui pouvait, pour peu qu'il fût servi par le hasard, lui faire découvrir quelque chose d'anormal qui l'eût mis sur la trace des évadés ou lui eût révélé un coin de leur plan. N'ayant rien trouvé, il revint à la rade et s'en fut aborder la goélette hollandaise. Sauta à bord, constata rapidement que tout y était normal et que son canot et sa norvégienne ne l'avaient pas quitté. Après quelques phrases brèves échangées avec le capitaine, il rejoignit la chaloupe. Pendant sa courte absence, les quatre bandits avaient été bien tentés de sortir de leur trou et de se jeter sur les artoupans. Mais c'était bien risqué et avec bien peu de chances de réussite. Les surveillants étaient armés et les abattraient comme des bêtes. Il était difficile, du reste, de les surprendre. Au premier bruit qu'ils auraient entendu sous eux, les gardes auraient pris l'éveil, auraient compris que le gibier qu'ils cherchaient si loin était tout prêt. Sans compter qu'en pleine rade, on serait accouru leur prêter main-forte immédiatement. Si l'on devait tenter un coup de ce genre, il était préférable d'attendre la pleine mer. Déjà la chaloupe avait le cap sur le continent, laissant derrière elle les îles. La traversée fut rapide. La chaloupe marchait merveilleusement. Aucun incident pendant le court voyage. L'événement se déroulait si magnifiquement pour les quatre bandits qu'ils n'avaient qu'à laisser faire. On verrait bien tout à l'heure. Un immense espoir commençait de naître en eux. Et l'on toucha le pontonnement de Kourou. C'est là que le drame allait se dérouler pour le Parisien et sa bande. La minute allait être décisive. Les chaînes auxquelles on attachait la chaloupe étaient maintenant sous le rouf, sur les genoux des bandits. Pouvait-il imaginer que l'officier ou les artoupans allaient s'en saisir sans découvrir enfin leur repère? Et oui, ils espéraient cela, car l'extrémité des chaînes se trouvait hors du rouf, et il suffisait de se baisser et de ramasser cette extrémité pour que tout le reste vînt. C'est ce qui arriva. Un garde-chaume se baissa, tourna même la tête du côté de cette tanière d'où les misérables se tenaient prêts à bondir au moindre incident, mais ils ne furent pas aperçus. Selon son habitude, l'officier rendit son moteur inutilisable, et après qu'il eut attaché sa chaloupe, il sauta sur le ponton, ordonnant aux deux gardes de le suivre. On les vit bientôt disparaître tous trois dans la nuit. Le Parisien, Fric-Frac, le bêcheur et le caïd poussèrent un soupir effroyable. Depuis une demi-heure, ils n'avaient pas osé respirer. Fric-Frac ôta son béret et, saluant dans la direction de l'as de carreau, il prononça avec émotion et gravité ce seul mot « Au revoir et merci ». Bientôt, ils furent accroupis sur le pontonnement, cherchant le gardien qui s'y trouvait toujours. Comme ils ne le découvrirent point, ils se soulevèrent à demi et se mirent à courir du côté de la terre. Mais tout à coup, ils entendirent derrière eux des éclats de voix et l'ordre de s'arrêter. Bien entendu, ils s'enfuirent à toutes jambes. Il y eut un coup de feu dans leur direction. « À Crèce !» gronda le Parisien. « Au Satou !» à la forêt. « Et dardard !» Chapitre 6. Pernambouc, le bourreau du bagne. Chéribibi et Pallas avaient trop d'avance sur l'artoupan qui les canardait pour risquer d'être atteints. Mais quand celui-ci déboucha, peu de temps après eux, du souterrain par où étaient passés les six bagnards, on imagine la musique qu'il put faire. Les deux forçats s'étaient vus couper le chemin du môle et avaient dû se rejeter dans un petit bois de haute futaie. En vain, s'efforcèrent-ils de regagner de là, à plusieurs reprises, les amoncellements des rochers de la grève. Toutes leurs tentatives furent éventées de ce côté. Et c'est avec un sombre désespoir que Chéri Bibi, qui ignorait le départ de la chaloupe, dut y renoncer. Maintenant, les gardes recommençaient à fouiller le bois avec fureur. Ils déchargeaient à tout hasard des coups de fusil, des coups de revolver dans les arbres. Ils juraient abominablement. Leurs invectives s'adressaient à Chéri Bibi, qui leur avait donné si souvent tant de mal et qu'ils n'avaient jamais pu prendre lors de ses évasions. C'était toujours lui qui, après quelques semaines de séjour dans la forêt, venait se reconstituer prisonnier. Les évasions de forçats, surtout sur le continent, n'étaient pas rares. Les relégués y sont moins surveillés. Ceux-là aussi, comme Chéri Bibi, disparaissaient pendant quelque temps, puis rentraient d'eux-mêmes, ayant achevé ce qu'ils appellent leur petite villégiature. Ils avaient pris le temps de ramasser un peu de poudre d'or, à la batte, dans des endroits connus d'eux seuls. Et puis, las de l'horrible vie de la forêt et de ses multiples dangers, ils venaient reprendre leur place au bagne. On avait beau les fouiller, on ne trouvait rien sur eux. Ils avaient des trucs extraordinaires et insoupçonnés pour cacher cette poudre d'or qui leur procurait quelque satisfaction à Cayenne et dans les établissements forestiers. Mais, Chéri Bibi, comment faisait-il pour s'enfuir des îles sans être dévoré par les requins? Enfin, cette fois-ci, on était à peu près sûr, au moins, qu'il se trouvait encore à terre. On avait aperçu sa silhouette et celle de Pallas dans le moment qu'il s'était jeté dans le bois.
« Au dépôt de charbon !»
souffla le bandit à Pallas dans l'instant qu'ils allaient être cernés. La marine, en effet, entretient aux îles du Salut un énorme dépôt de charbon. Chéri Bibi, plus d'une fois, avait trouvé là un sur-refuge. Pour retrouver le bagnard dans cet amoncellement de morceaux de charbon et de briquettes, il eût fallu tout bouleverser, tout transporter. Aux heures du repos, quand les forçats étaient moins surveillés, Chéri Bibi se glissait dans l'entrepôt et se creusait là des corridors et des chambres, connus de lui seul et insoupçonnables. Un jour ou l'autre, ça pouvait toujours servir. Le moment était venu d'en user à nouveau. Pour y arriver sans encombre, autant que possible, ils prirent par le chemin le plus long, faisant un grand détour derrière le magasin d'approvisionnement. Ils soufflèrent un peu et, tournant le pain de sucre de l'île, ils arrivèrent enfin au dépôt de charbon. Mais c'était une malédiction. Le dépôt de charbon était entouré d'une petite troupe de gardes qui en défendait l'approche. Décidément, l'expérience des évasions passées avait dû donner l'éveil à l'administration pénitentiaire. Rien encore à faire de ce côté. Chéri Bibi jura, et comme il jurait, un coup de feu stria la nuit et une balle siffla entre Pallas et lui. Ils étaient à nouveau découverts. Ils arrivèrent ainsi, chassés peu à peu de partout, jusqu'au bâtiment central de l'île dans lequel on enfermait ceux qui s'étaient révoltés contre la chiourme ou qui avaient été condamnés par les tribunaux du bagne. Là, en dépit du service de surveillance renforcé, toutes les portes étaient toujours fermées. Ce soir-là, cependant, une seule était restée entr'ouverte. Chéri Bibi et Pallas se glissèrent derrière elle. Sur cette porte, trois mots étaient peints en noir. « Bois de justice ». Chéri Bibi et Pallas n'étaient point seuls là-dedans. Il y avait deux corps et deux têtes au fond d'un panier. Deux têtes coupées du matin même. Et puis, il y eut le bourreau Pernambouc qui entra et qui referma la porte. Il était gai. Il revenait de la cantine où il avait festoyé à ses frais, en sourdine. Il avait régalé tout le monde toute la journée. Il était content. Il chantonnait. C'était un heureux caractère, trouvant que la vie avait toujours son bon côté. Le bon côté de la vie au bagne, c'était pour lui la mort des autres. Donc, Pernambouc chantonnait. « Je vais trouver là être tard, je fais mon monsieur félice que fort, je vais partout comme un chef d'État. » Il ne continua pas. Pernambouc venait de se retourner. À la lueur sanglante d'un falot suspendu à la muraille, il reconnut Chéri Bibi et Pallas. Il ne poussa pas un cri, il ne fit pas un geste. Il regretta simplement de n'avoir pas fermé sa porte, et il attendit. Chéri Bibi ne fut pas long à s'expliquer. « Écoute, il y a gros à gagner pour toi. Au lieu de mettre ces tronçons-là dans ton sac et d'aller les jeter comme tu le fais toujours au bout du môle, tu nous y mettras à tour de rôle, Pallas et moi, et tu nous videras dans la limonade, dans l'eau, comme t'as l'habitude, mais tout près du grafouilleur, chaloupe, à l'as de carreau. C'est compris ?»«
Combien ?»
demanda Pernambouc. Chéri Bibi défit une doublure de la ceinture de son pantalon, et il y recueillit quelque chose qui brilla. Pernambouc détacha le falot de la muraille et le pencha sur cette chose brillante. « Je te donne la moitié de la poudre de jonc, poudre d'or, que j'ai là, » dit Chéri Bibi.
« Je veux tout !»
répondit Pernambouc. Chéri Bibi lui donna la moitié de sa poudre pour qu'il transportât Pallas d'abord, et lui promit l'autre moitié quand il reviendrait le chercher.
« Comme ça, c'est juste, » fit Pernambouc. « All right, my lord. »« Mais qu'est-ce que je vais faire de mes tronçons ?»«
Et tu n'as qu'à les en tirer ici, tu trouveras bien le moyen de t'en débarrasser. D'ici là, t'as pas peur qu'ils ressuscitent ?» Une minute plus tard, Pallas se glissait en frissonnant de toute sa chair et de toute son âme dans l'horrible sac du condamné à mort. Et Pernambouc le chargeait sur ses épaules. Sur le môle, l'artoupant dont Chéri Bibi avait constaté l'absence au début de son expédition était accouru reprendre son poste dès les premières rumeurs d'évasion. Il était gai, lui aussi. Et peut-être bien que sa gaieté avait été puisée à la même source où s'était si bien désaltéré ce brave Pernambouc. Il aperçut soudain le bourreau qui s'avançait, assez péniblement du reste, le sac du condamné à mort sur le dos. Il alla au-devant de lui et lui demanda, goguenard, « Elle pèse lourd, ta sale marchandise ?»«
Oui, c'est pas de la plume, »
fit l'autre. « J'ai hâte de m'en débarrasser. »«
Va donc, » répliqua l'artoupant.
« Ça ne manque pas de tombeau du forçat ce soir. On dirait qu'ils le savent. J'ai vu des requins qui tournaient et retournaient près du môle. »«
Où ça ?»
demanda Pernambouc.
« Tout au bout. »«
Je vais leur donner à souper, » fit Pernambouc avec un rire abominable.
« Je t'accompagne, »
dit l'artoupant guilleré. Tout en marchant, Pernambouc se rendait compte que la chaloupe de l'as de carreau n'était plus à quai. Un rire sinistre le secoua tout entier. Cependant, il n'était pas méchant. C'était, nous l'avons dit, une nature généreuse qui, à la cantine, n'aimait pas faire suisse. Mais à l'idée de la bonne tête qu'allait faire Pallas, quand dans l'eau il allait s'apercevoir que la chaloupe était en balade et que les requins l'attendaient, il ne put s'empêcher de s'esclaffer.
« Eh ben, mon vieux, tu sais, ça tranguait ces petites affaires-là, » fit le garde.
« Oui, » répliqua Pernambouc, « il y a du bon, j'ai bien gagné ma journée, je suis content de moi. » Arrivé au bout du môle, il jeta son sac sur la pierre.
« Où que c'est que tu les vois, les requins ?»
La présence de l'artoupant gênait un peu Pernambouc, et il profita de ce que l'autre, penché au-dessus du flot, essayait de distinguer le mouvement des monstres entre deux lames pour jeter rapidement son sac. Quand le garde-chourme se retourna au bruit que fit Pallas en plongeant dans l'élément liquide, il ne distingua qu'une grosse masse sombre
qui disparaissait dans un remuement d'écume. Presque aussitôt, un autre tourbillon gonfla la lame à quelques brasses de là, et, sur la mer lumineuse et phosphorescente, glissa l'ombre bondissante d'un squale énorme qui disparut dans la direction de Palas. Il y eut alors, au-dessus de l'endroit où celui-ci avait disparu, un bouillonnement, et puis tout s'apaisa.
« Malheureux, qu'il fait nuit !» exprima l'artoupan.
« On verrait si la mer est rouge !»«
Oh, a pas peur !» s'exclama Pernambouc. « En voilà encore un qui est mort et enterré !»
Et il s'éloigna en chantonnant. « Je vais trouver la étretat, je fais mon monsieur félice que fort, je vais partout comme un chef d'État. » « Fera plus Palas. Palas est mort. »
Eh bien non, Palas n'était pas mort. Avant qu'il eût touché la mer, un couteau avait éventré son sac. Tout de suite, entre deux eaux, il avait nagé, d'un effort puissant, vers cet endroit où il croyait toucher la chaloupe. Plus de chaloupe. Et à sa place, un requin qui accourait vers lui et se renversait déjà sur le dos, la gueule ouverte comme un gouffre. Palas connaissait la manœuvre. On ne parlait que de cela pendant les heures de repos aux îles. Il plongea et lui passa sous le dos. Le monstre avait déjà perdu la piste et la cherchait de l'autre côté du môle. Mais que faire? Du côté où il se trouvait, Palas venait d'apercevoir le garde Chiourme qui s'asseyait sur la haute marche du petit escalier, seul endroit du môle où il put aborder. Il replongea, redisparut entre deux eaux, décidé à regagner la grève au plus vite, derrière l'artoupan, en faisant le tour du môle, si les requins lui en laissaient le temps. Pas une seconde, il ne pensa à se livrer pour sortir de cette épouvantable situation. Plutôt 1000 morts que de recommencer le bagne. Peut-être arriverait-il à temps sur la grève pour rencontrer Pernambouc et son nouveau fardeau et sauver Chéri Bibi de l'affreux danger qu'il avait couru lui-même. Il se cacherait encore, et elle reviendrait, la chaloupe. Déjà, il avait fait le tour du môle quand le monstre, qu'il avait manqué une première fois et qui était toujours à sa recherche, lui barra soudain la route et, se retournant à nouveau sur le dos, glissa vers lui en ouvrant sa terrible mâchoire. C'est ce mouvement assez compliqué qu'est obligé de faire le requin dès qu'il veut se saisir de sa proie, qui permet aux pêcheurs de perles, par exemple, de plonger dans des eaux infestées de squales et, le plus souvent, de leur échapper. Dès que la bête se retourne, il plonge par-dessous et quelquefois trouve le temps de lui ouvrir le ventre de bout en bout d'un magnifique coup de couteau, arme qu'ils emportent toujours entre leurs dents. Palas avait trop peu pratiqué cette escrime avec les squales pour penser à autre chose qu'à la fuite. Il eut vite reculé jusqu'à la pierre du môle, mais il savait que de ce côté, il y avait un gros anneau qui servait à attacher les petites embarcations. Il l'atteignit d'un bras presque épuisé, tant ses élans avaient exigé de dépenses musculaires. Mais, avant que la bête fût sur lui, il avait encore eu la force de saisir l'anneau des deux mains et de s'enlever hors de l'eau à la force des poignets. Le requin passa sous lui à le frôler, referma sa gueule sur le vide et disparut dans la nuit. Pendant ce temps, Pernambouc était allé retrouver Chéri Bibi. Celui-ci vivait des minutes terribles. Les amitiés ou les amours de Chéri Bibi étaient aussi excessives que ses haines. Son cœur avait adopté Palas. Savoir celui-ci en danger était pour lui le plus cruel des supplices. Pernambouc, en rentrant dans sa cabane, le trouva assis sur le panier des condamnés à mort. Le falot éclairait une tête à répandre l'épouvante chez les moins impressionnables. Si peu impressionnable qu'il fût, Pernambouc frissonna. « Tout s'est bien passé » se hâta-t-il de jeter avant toute question.
Pallas est dans la chaloupe ? Demanda Chéri-Bibi. Pallas est dans la chaloupe, répondit Pernambouc en tendant d'une main le second sac à Chéri-Bibi et en lui réclamant de l'autre le reste de la poudre d'or. Quelques minutes plus tard, Pernambouc réapparaissait sur le môle, courbé sous l'énorme fardeau de son sac et de Chéri-Bibi. L'artoupan somnolait sur la marche de l'escalier. Pernambouc dut le bousculer un peu. « Laisse-moi finir ma besogne. »« Ah, c'est le numéro 2 !» grogna l'artoupan. « Il a l'air plus lourd que l'autre, hein ? Veux-tu que je t'aide à le balancer ?»« T'occupe pas. Dis donc, remonte un peu sur le môle. Il me semble avoir vu la figure du Mécart, commandant, par ici. Et il jure ses 20 dieux. Il faut toute l'île sans dessus-dessous ce soir. » « C'est vrai que Chéri-Bibi est mort ?» demanda l'autre en remontant sur le môle. « Avec celui-là, on ne sait jamais !» Et Pernambouc poussa le sac dans l'eau où il s'engouffra, avec un remous énorme. Pernambouc n'était pas encore remonté, qu'une sourde exclamation venait de la mer et le faisait de nouveau frissonner jusqu'au moelle. « Fatalitas !»« Tu as entendu ? Il me semble qu'on a parlé !» fit l'artoupan. T'es dans le rêve ce soir. » Le garde n'insista pas. Il était occupé maintenant par le bruit lointain d'un moteur. « Tiens, » fit-il tout haut, « voilà l'officier de surveillance qui revient. »« Oui, oui, » dit Pernambouc, « c'est le grafouilleur. » Et, sa journée achevée, son devoir accompli, il regagna son dortoir en fagot bien discipliné. Le commandant, lui aussi, avait entendu le grafouilleur. Il arriva pour le voir aborder et recevoir l'officier, qui avait accompli toutes les consignes, mais qui n'avait rencontré aucun fugitif. « Cela devient de la fantasmagorie !» s'écriait le commandant en quittant le môle avec les officiers. « Nous non plus, nous n'avons rien trouvé !» Dans le même moment, le garde-chourme ne fut pas un peu stupéfait de voir l'embarcation quitter le quai sans qu'apparemment elle fût montée par personne. Il cria, il appela, il visa la chaloupe et à tout hasard déchargea quelques cartouches dans sa direction. L'état-major accouru ne pouvait en croire ses yeux. Pendant ce temps, dans la chaloupe, Pallas et Chéri-Bibi, enfin retrouvés, gagnaient le large. Le moteur rendait merveilleusement. Il pouvait se croire hors de danger. Quand, soudain, Chéri-Bibi s'écria « La tapouille !» Ainsi appelle-t-on le bâtiment chargé du transport des condamnés et aussi de la surveillance entre les établissements pénitentiaires. La côte était proche. Cependant, Pallas et Chéri-Bibi n'eurent que le temps de s'y échouer avant que le canot mis à la mer par la tapouille n'eût débarqué lui-même sur le continent la bande d'artoupans qui déjà leur tirait dessus. Pallas et Chéri-Bibi se jetèrent, éperdus, dans la forêt vierge. « Nous les avons ! Nous les avons !» hurlaient les artoupans. Mais bientôt ils s'arrêtaient dans leur poursuite, et ils reculaient même, devant un véritable brasier qui commençait à crépiter de toutes parts. Chéri-Bibi avait mis le feu à la forêt. Chapitre 7. Les mystères de la forêt vierge. Pallas et Chéri-Bibi étaient entrés dans quelque chose de redoutable, la forêt vierge. Combien d'évadés qui avaient cherché là un refuge y avaient trouvé la mort, et dans les conditions les plus cruelles. Il leur avait fallu lutter contre tout et contre tous. La faim, les fièvres, les bêtes, les hommes. Il n'est point rare que quelques corvées forestières, en défrichant un nouveau coin des bois vierges, se trouvent en face de plusieurs cadavres à moitié dévorés. C'est tout ce qui reste d'une évasion retentissante. Il faut être un bien vieux fagot pour trouver dans le satou, forêt, une amie qui vous défend et vous garde. Nous avons dit que, las de la vie de sauvage qu'on y mène,
plus d'un forçat est revenu se constituer prisonnier. Cependant, Chéri-Bibi dit à Pallas, « La forêt, ça me connaît. Ils peuvent bien nous lancer tous les artoupans de la colonie, je les défie de nous reprendre. » Et tout d'abord, pour arrêter quelque temps ceux qui les poursuivaient, le bandit avait tranquillement mis le feu à un vaste abatis d'arbres de toutes dimensions et de toutes essences que la hache avait couché par terre depuis des mois et que l'ardent soleil équatorial avait à point desséché. L'abatis, en quelques minutes, était devenu un gigantesque brasier qui communiqua sa flamme à tout un coin de la vivante forêt, si bien que, devant la violence de l'incendie, Pallas, inquiet, se demandait déjà s'ils n'allaient pas être victimes eux-mêmes de leurs moyens de défense. Le vent, qui s'était élevé à la tombée de la nuit, soufflait nord et nord-ouest et poussait les flammes dans la direction de Cayenne. Sentant d'instinct tous les animaux qui fuyaient du côté opposé, c'est-à-dire au devant du vent, Pallas voulait entraîner Chéri-Bibi vers le nord-est, mais celui-ci l'arrêta d'un mot. « Par là, nous sommes sûrs de retrouver les artoupans qui doivent s'être préparés à nous barrer le chemin. Laisse-moi faire, et ne quittons pas l'incendie. » Pallas se laissa faire, se disant en aparté que s'ils étaient à peu près sûrs, en effet, de ne point retrouver les artoupans en fuyant de ce côté, ils risquaient fort d'être brûlés vifs. Au fait, ils sentaient derrière eux la chaleur plus ardente du brasier. Maintenant, il bondissait. « Ça y est, nous sommes sauvés !» proclama Chéri-Bibi. Et Chéri-Bibi, à travers des lianes qui, à côté d'eux, commençaient déjà à crépiter, montra à Pallas la nappe rose d'une rivière. L'eau ! L'eau ! La rivière de Kourou ! Quelques secondes plus tard, ils traversaient la rivière à la nage. « Attention au caïman !» faisait Chéri-Bibi. Et puis tout à coup, « Dans l'eau » fit-il à voix basse. « Dans l'eau jusqu'à la gue... V'là les artoupans. J'aimerais mieux les caïmans. » Et dans l'instant, du coude de la rivière, déboucha une chaloupe pleine de gardes lancées à la poursuite. Cachés dans les roseaux, au milieu des plantes aquatiques, Pallas et Chéri-Bibi durent à maintes reprises plonger complètement pour n'être pas aperçus, car la lumière était éclatante et le ciel semblait rejoindre la terre dans un même embrasement, dans une même illumination de ces cierges prodigieux qu'étaient les arbres géants de la forêt vierge, plusieurs fois centenaires. « Plus haut !» commanda le sous-off, et l'embarcation, remontant le courant, disparut enfin. Pallas et Chéri-Bibi, à peu près sûr d'avoir cette fois dépisté les gardes-chiourmes, car il était visible que ceux-ci croyaient encore les deux évadés sur quelques points de l'autre berge, sautèrent sur la rive droite et s'enfoncèrent dans la forêt, s'éloignant à la fois de la rivière et de la mer, pénétrant hardiment au cœur même des bois vierges. Chéri-Bibi semblait suivre un plan arrêté, car il suspendait sa marche de temps à autre, comme pour s'orienter. Cette marche était du reste devenue fort difficile, et Pallas émit l'hypothèse qu'il pourrait peut-être maintenant s'arrêter, prendre quelque repos et repartir au jour. Sous le dôme de la haute futaie et dans l'enchevêtrement des lianes et des plantes parasites de toutes sortes, il se glissait maintenant dans la plus profonde obscurité. « As-tu de quoi faire du feu ?» répondit Chéri-Bibi. « Non, n'est-ce pas ? Eh bien moi, il me restait 3 allumettes. Je n'ai pas besoin de te dire que le séjour dans l'eau ne les a pas rendues très inflammables. Alors quoi, mon petit ? S'endormir la nuit dans le satou, sans feu à côté de soi, c'est vouloir ne plus se réveiller que sous la dent d'un jaguar. En route ! On se reposera au jour. » Ainsi marchèrent-ils tout le reste de la nuit, se rendant compte que s'ils se reposaient un instant, ils fermeraient les yeux, accablés. Chéri-Bibi encourageait Pallas en lui racontant des histoires énormes sur la forêt vierge, et que celui-ci avait souvent peine à croire. Que de drames étranges ! que de fabuleuses et mystérieuses fortunes dont la légende courait autour des placés d'or. En attendant, ils étaient quasi tout nus, chacun avec un couteau pour toute arme. « Depuis que nous marchons, » fit chéri Bibi, « nous ne devons plus être bien longtemps sans rencontrer le pupu. »«
Qu'est-ce que c'est que ça, le pupu ?»«
C'est une petite rivière qui va se jeter dans la rivière de Cayenne et qui nous barre forcément le chemin. Un peu plus haut, un peu plus bas, nous sommes obligés de la rencontrer. Alors là, mon petit, nous verrons clair dans notre histoire. »
Pallas avait les pieds en sang. Il avait voulu plusieurs fois se défaire des rudes souliers que lui avait octroyés l'administration pénitentiaire. Chéri Bibi s'y était résolument opposé.
« Mon petit, c'est plein de grage là où nous marchons, et il n'y a rien de plus venimeux que ces serpents-là. Il ne faut qu'un coup. Faisons le plus de bruit possible en marchant pour les faire fuir, et garde tes godasses. »
Avec leurs couteaux, dont ils usaient souvent pour se faire un chemin parmi l'enchevêtrement inextricable des plantes parasites, ils s'étaient taillés deux bâtons, véritables épieux, arrachés à un bois dur comme le fer et appelés bois canon. En marchant, ils tapaient de droite et de gauche dans le fourré, et souvent ils entendaient le bondissement d'une bête qui détalait dans la nuit. Enfin, le jour se leva brusquement. Et chéri Bibi se mit à courir. Bientôt, Pallas l'entendit qui criait « Le pupu ! Le pupu !» Il put encore se traîner jusque-là et tomba, épuisé, devant un ruisseau aux ondes fraîches et bondissantes sur des rochers clairs. Chéri Bibi avait déjà le menton dans l'eau et buvait, buvait. Pallas se pencha sur la même coupe. Après quoi, tous deux s'endormirent comme des brutes, à l'ombre des branches qui venaient pendre au-dessus de ce ruisseau enchanté. Si profond était leur repos et leur anéantissement, qu'ils n'entendirent pas quatre hommes qui descendaient assez bruyamment cette rive tant désirée. En apercevant Pallas et Chéri Bibi, les quatre hommes s'arrêtèrent d'un même mouvement. C'étaient le Parisien, le Bêcheur, le Caïd et Fric-Frac. La joie des quatre bandits fut immense en voyant à leur disposition les deux êtres qu'ils haïssaient le plus au monde. Ces quatre hommes étaient armés de haches dont ils s'étaient emparés en même temps que de quelques provisions, déjà épuisées du reste, en traversant une exploitation forestière à leur sortie de courroux. Ils n'avaient qu'à lever leurs armes et à frapper. Et déjà le Parisien agitait sa hache en fixant Pallas d'un regard d'où le besoin de tuer avait déjà mis du sang. Mais le Bêcheur, qui était la plus forte tête de la bande, tombait d'accord avec Fric-Frac, lequel était le plus malin, pour décider qu'il y avait matière à réflexion. Ils entraînèrent le Parisien et le Caïd, et il y eut un conciliabule. Le résultat de cette conversation fut que les quatre bandits remirent à plus tard leur sournois attentat. Le raisonnement du Bêcheur était au surplus des plus convaincants. Ce n'était un mystère pour personne que chéri Bibi avait, dans quelque endroit du bois vierge, ce qu'au bagne on appelle une carrette, cachette, dans laquelle il avait certainement eu la précaution, lors de ses précédentes expéditions, d'entasser tout ce qui pouvait être utile à un fagot, provisions et autres, pour ne point calancher dans le satou, mourir dans la forêt. De toute évidence, les deux hommes qui dormaient là, quasi tout nus, rompus de fatigue et dénués de tout, n'avaient pas encore atteint l'une de ces carrettes. Ne convenait-il point, avant de les exterminer, d'attendre qu'ils eussent eux-mêmes livré leur trésor à des gens qui, comme le Bêcheur, Arrigonde, Fric-Frac et le Caïd, en avaient le plus grand besoin? Ayant décidé cela, ceux-ci remontèrent un peu vers le nord pour se trouver derrière les deux compagnons quand ils se remettraient en marche. Ils n'avaient pas abandonné les rives du Pupu, qui certainement devait être un guide pour chéri Bibi. De fait,
Au réveil, Chiribibi, après s'être orienté, tira Pallas de son sommeil écrasant et tous deux suivirent la rive en s'enfuyant vers le sud-ouest. Arrigonde et sa bande ne perdaient pas un seul de leurs mouvements. Et ils eurent la joie de voir Chiribibi s'arrêter au pied d'un immense balata, arbre à caoutchouc, soulever une roche et creuser la terre à la pointe de son bâton de bois canon. Pallas l'aidait. Ils semblaient travailler tous deux avec une fièvre croissante. Pour ceux qui assistaient à cette scène, il ne faisait point de doute que là se trouvait la carrette au trésor. Enfin Chiribibi se pencha, et après avoir fouillé la terre, il se mit à passer à Pallas différents objets. Fric-Frac, qui savait se mouvoir dans la forêt sans faire craquer une branche, comme il savait à Paris glisser de nuit dans un appartement sans heurter un meuble, s'était avancé au plus près des deux compagnons sans leur donner l'éveil et regardait toute la scène avec avidité. D'abord, ce fut un sac plein d'objets de première nécessité. Fric-Frac entend la voix rauque de Chéri-Bibi qui énumère une boussole, une petite lanterne, une scie, des boîtes de conserve, des épices, deux bouteilles de tafia, un briquet et de l'amadou, une boîte de fer où sont enfermés les papiers d'identité nécessaires pour faire en France d'un forçat un honnête homme. « Il y a plusieurs honnêtes hommes là-dedans !» grogna joyeusement Chiribibi. « Tu choisiras !» Un flacon rempli d'un liquide brunâtre, antidote sûr pour la morsure des serpents. Chiribibi a pensé à tout, mais le plus beau, certainement, est ce grand coffre d'où le bandit sort deux sabres d'abattis, une carabine, un revolver, des munitions et trois cartouches de dynamite. « Et tout cela en excellent état !» fait remarquer Chiribibi. À cause de la précaution que j'avais prise de recouvrir sac et coffre d'une épaisse couche de balata. Pallas ne sait comment exprimer sa joie. Il rit. Pour la première fois, il rit depuis qu'il est au bagne. Il ne se doute pas, le malheureux, qu'il y a là, tout près de lui, deux yeux qui voient ses trésors, qui brûlent de convoitise. Ah! Si Fric-Frac avait eu à côté de lui ses trois compagnons, peut-être n'eussent-ils point attendu pour se jeter sur les deux amis, que ceux-ci se fussent saisis de leurs armes. Peut-être, car Pallas et Chiribibi, même sans armes, sont bien redoutables. Déjà, les deux amis apaisent leur faim avec les boîtes de conserve, puis Chiribibi, sa carabine sur l'épaule, semble prête à partir pour la chasse. « Affûte tes crocs, mon petit, » dit-il à Pallas. « Je vais te chercher ton dîner et je te prie de croire que c'est pas à la table du Mécar, le commandant, qu'on servirait un Lucullus pareil. D'abord, occupons-nous du poisson. » « Tu veux chasser et pêcher à la ligne en même temps ?» demanda Pallas, qui, depuis qu'il avait découvert toutes ces merveilles, oubliait ses misères et montrait une joie d'enfant. « Tu vas voir comme je pêche à la ligne, moi !» répliqua Chiribibi. Et s'avançant sur le bord du pupu, après avoir passé sa carabine à Pallas, il sortit de son précieux sac dont il avait passé la bretelle à l'épaule une cartouche de dynamite. Une minute plus tard, cette cartouche éclatait au milieu du pupu et aussitôt, sur les eaux bouillonnantes, quelques dizaines de poissons, gros et petits, venaient flotter le ventre en l'air. « Hein ? Qu'est-ce que tu dis de la friture ?»« Je regrette la cartouche de dynamite, » fit Pallas. « Nous n'en avons plus que deux. »«
C'est plus qu'il nous en faut, » répliqua Chiribibi.
« À quoi veux-tu qu'elle nous serve, sinon à pêcher ? J'en usais autrement quand je m'amusais à prospecter, chercher de l'or, à travers le Satou, mais maintenant je n'en ai plus besoin, et je te dirai pourquoi au dessert. » Chiribibi se mit à chasser et fut assez heureux pour descendre un maï pourri, un tapir et une perdrix.
La perdrix était grosse comme un poulet, et le tapir comme un petit poney. Sa chair est une des meilleures viandes rouges de là-bas. Avec les aymaras, poissons des rivières de la Guyane, qu'ils avaient ramassés au fil de l'eau, après la pêche à la dynamite, le dîner ne devait pas manquer d'être succulent. Ils établirent leur campement à une centaine de mètres du pupu, sous une futaie épaisse, creusèrent un trou et allumèrent du feu, et quand ce trou fut chaud comme un four, ils y glissèrent le tapir, dépouillé et sanglant. Ils mangèrent en buvant l'eau fraîche du pupu, coupée de tafia. Chéribibi tira de son sac, au dessert, du tabac, et ils se mirent à fumer en devisant gaillardement. Pallas trouvait cette existence admirable et déclarait ne point comprendre la conduite de ces évadés du bagne qui, ayant eu le bonheur inespéré d'avoir pu atteindre la forêt vierge, venaient se reconstituer prisonniers. Entendant cela, Chéribibi eut un sourire terrible. Le soir allait tomber, il y avait maintenant un silence impressionnant de tous êtres et de toutes choses autour d'eux. « Eh bien !» déclara Chéribibi à voix basse, comme s'il eût craint d'être entendu des arbres eux-mêmes. « Eh bien, moi qui suis son ami à la forêt, moi, je te dirai que je ne puis pas la regarder, moi, Chéribibi, sans frissonner, et surtout dans des heures comme celle-ci, où elle ne respire plus. Son silence me fait peur. Je n'ai jamais eu peur que de deux choses, Pallas, de mon couteau pour les autres, et de la forêt pour moi, car la forêt est contre moi. Quelquefois elle veut être bonne, et c'est dans ces moments-là qu'elle tue. La forêt, c'est quelque chose comme ma grande sœur. Je l'aime bien, elle m'aime bien, et cependant elle m'empoisonnerait tout comme un autre, parce que quand on est né pour le crime, il n'y a rien à faire. On en a toujours un en train dans le moment qu'on y pense le moins. Méfie-toi. Faut toujours se méfier. La forêt, c'est plein de mystères, plein de souffles qui tuent, de plantes et d'animaux qui portent la mort dans leur haleine. Et puis, il n'y a pas que les herbes et les bêtes. Tiens, écoute ! Gronda tout à coup Chéribibi en sautant sur sa carabine et en fouillant l'ombre derrière Pallas. Tu n'as pas entendu ?
Non ?
Quoi ?
Une respiration d'homme.
Chéribibi resta quelques minutes à écouter la forêt. Et puis il vint se rasseoir auprès du foyer et jeta aussitôt des cendres dessus.
« Je te dis, fit-il à voix basse, qu'on a respiré pas bien loin de nous et que c'était une respiration d'homme. Peut-être un sorcier qui passe et qui s'est approché de nous pour voir. En tout cas, éteignons le feu qui éclaire trop et allumons le fanal. C'est tout juste ce qu'il faut pour faire fuir les bêtes. Tandis que le grand feu, vois-tu, ça attire les hommes, s'il y en a dans les environs. Alors tu n'as rien entendu, toi ?
Non ?
Tu ne sais pas. Sûr, il n'y a qu'un sorcier pour être venu si près. Malheur que Yo-Yo ne soit pas là.
Qu'est-ce que c'est que ça, Yo-Yo ?
Yo-Yo, c'est à coup sûr le premier sorcier du Satou. C'est lui qui m'a appris bien des choses. Il a un remède pour tout. Il fait fuir les mauvais esprits et il m'a donné cet antidote pour les serpents. Je te le présenterai dans 3 ou 4 jours de marche. C'est un Indien originaire du pays des Émerillons et il a failli être mangé par une tribu féroce de Roukouyenne, lui et toute sa famille.
Tout sorcier qu'il est !
En ce temps-là, il n'était encore qu'apprenti sorcier. Il n'avait pas encore passé les examens.
On passe donc des examens dans la forêt pour être sorcier.
Les Indiens par ici appellent les sorciers des piailles. Il y en a beaucoup qui se prétendent piailles, mais s'ils n'ont pas de vrai titre, ils ne trompent personne. Il y a des épreuves auxquelles on reconnaît, à ne jamais s'y méprendre, un vrai piaille. Celui-ci saura par exemple se faire obéir à l'heure dite d'un tigre ou d'un jaguar. Comprend qu'il connaît tous les parfums, toutes les herbes, tous les détritus spéciaux dont il faut semer la route des bêtes pour qu'elles viennent jusque là où il veut les faire venir. Et ce yo-yo, c'est un ami ?
Un très grand ami. C'est moi qui l'ai sauvé du massacre. Et depuis, il travaille pour moi avec ses frères, dans un endroit secret de la forêt. Là où il y a beaucoup d'or, Pallas. Plus d'or peut-être que tu ne pourras en emporter.
Chiribibi veilla toute la nuit et soigna Pallas comme son enfant. Il avait réussi à lui fabriquer une sorte de hamac, des plus sommaires, en entrelaçant quelques lianes et en les suspendant à un arbre. C'était suffisant pour garer Pallas de l'innombrable et atroce piqûre de fourmis qui sont la plaie mortelle des nuits de la Guyane. Le lendemain, Pallas ne savait comment le remercier, comment lui exprimer le sentiment dont son cœur débordait par tant de tendre affection. Pallas ne comprenait pas.
« T'occupe pas de ça !» dit Chéribibi en levant le campement.
« C'est une affaire entre moi et le bon Dieu. Il a plutôt été dur pour moi, le cher Seigneur qui est aux cieux, et nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais je lui pardonne bien des choses, parce qu'il t'a mis sur mon chemin. Tu sais, dans le milieu que je fréquente, ça ne se rencontre pas tous les jours une gueule comme la tienne, qui n'est pas celle d'une crapule. V'là tout. Tu me plais, parce que je t'ai vu souvent pleurer, appeler ta maman comme un gosse, et parce que t'as la peau blanche et l'âme comme une sacristie. Tu me reposes, quoi. En voilà assez, n'en parlons plus. Et puis, il faut que tu saches une chose, mon petit, c'est que tout ce que j'ai t'appartient. Ma vie, mon or, tout. Ma vie te sert ici. Mon or te servira en Europe. J'en ai beaucoup. Yo-Yo seul sait où il se trouve. Marchons jour et nuit. Je ne serai tranquille que lorsque nous aurons rejoint Yo-Yo. Tous les piailles ont peur de Yo-Yo, et les peaux-rouges lui obéissent depuis le pays de Taeka jusque chez les Paramakua. Yolok, le diable, et Goudon, le dieu bon, sont à sa dévotion. C'est le roi du Satou.
« Et où est-il, Yo-Yo ? »
demandait Pallas.
« Dans un coin du Satou que bien peu de gens connaissent, je te jure, en dehors de lui, de sa famille et de moi-même. Cependant, il vient presque tous les dimanches faire ses provisions chez Sanda, au cabaret-magasin du village des chercheurs d'or. »
Ils précipitèrent leur marche pendant 2 jours et 2 nuits. De temps en temps, ils rencontraient des indigènes qui leur adressaient les politesses d'usage, d'assez loin du reste.
« Odio,
bonjour.
Akono, feideba.
Merci, comment êtes-vous ?
Livaka bouyeba.
Le voyage est heureux, grâce au ciel.
Diafono.
Bonne continuation. » Quelquefois, les indigènes parlaient presque correctement le français. Pallas s'en étonnait.
La fréquentation du beau monde, mon cher, expliquait Chéribibi.
Des habitués des exploitations forestières et des colonies pénitentiaires de la côte.
Yo-Yo parle français comme toi et moi.
D'autres indigènes mêlaient drôlement le français et le pupu.
Comment l'ifika ?
Comment ça va ?
Philippi, couche-toi du bon côté.
« Bonne nuit, dors bien. » Pallas demanda à Chéribibi s'il était vrai qu'il y eût à la Guyane, comme on le prétendait, des tribus d'anthropophages. Chéribibi hocha la tête et dit « Il y en a. C'est assez rare, mais il y en a. Quand l'occasion d'un bon boulot se présente, tu comprends ? On ne peut pas leur en vouloir. À ce qu'il paraît que ce n'est pas mauvais. Généralement, les indigènes ne sont pas méchants. » Si les sorciers ne les déchaînent pas. Mais il y a des tribus qui ne travaillent que pour ça. Elles n'habitent pas par ici. C'est plus loin, du côté des Pelsgoudar. Yo-Yo me disait que par là il fallait se méfier. C'est des gens qui aiment les bons morceaux.
Et qu'est-ce que c'est que les terribles Oyarikoulés ?
Les terribles Oyarikoulés, je te dirais que je n'en ai jamais vu. Et que je crois bien que ceux qui en parlent le plus ne les ont pas vus davantage que moi. Cependant, on ne peut jamais dire. La forêt, c'est un monde, et il ne faut jamais s'étonner de rien. On raconte qu'ils ont de grandes oreilles, semblables à celles des ânes, des pieds d'une longueur démesurée. C'est des géants, quoi. Ils montent aux arbres comme des singes. Ils auraient des arcs gros comme le bras et d'une portée incroyable. Et naturellement, ils bouffent de l'étranger. On raconte aussi qu'ils ont des nez gros comme des becs d'ara. Des histoires. Cependant, il arriva ceci. Vers la 11e heure du 3e soir, Chéri-Bibi s'était endormi, accablé, et cette fois c'était Pallas qui veillait. Son arme dans les mains, il écoutait le bruit singulier du satou la nuit et tressaillait souvent, s'imaginant avoir entendu quelques branches craquer et même, comme disait Chéri-Bibi, une respiration d'homme. À 2 ou 3 reprises, il se leva, fit le tour du campement, s'arrêtant et écoutant, et n'avançant qu'avec les plus grandes précautions. Tout ce que lui avait raconté Chéri-Bibi des maléfices de la forêt hantait sa cervelle inquiète. Plusieurs fois, il se pencha sur l'ombre, prêt à tirer. Et puis il se traitait d'enfant peureux et revenait s'asseoir à côté de Chéri-Bibi. 1 heure à peu près se passa ainsi. Soudain, il y eut des branches qui craquèrent très distinctement, comme sous la poussée ou au passage d'un corps. Et puis, il y eut un soupir. Oh, très distinctement un soupir, et plus qu'un soupir, comme un murmure humain. Pallas secoua Chéri-Bibi, mais celui-ci continuait de dormir. Se reprochant d'avoir voulu arracher son ami à son formidable repos, Pallas, pour s'assurer qu'il n'avait pas été victime de ses sens surexcités, se glissa, l'arme en avant, dans la direction de ce qu'il avait cru entendre. Le bruit avait repris, mais semblait s'éloigner. Pallas s'avança résolument et tout à coup déboucha dans une petite clairière au centre de laquelle un indigène, à genoux et levant les bras vers la lune éclatante, soupirait et semblait se livrer à de douloureuses incantations. C'était un Indien, vêtu simplement d'une peau de bête, au visage étrangement tatoué et aux longs cheveux partagés par une raie médiane. Ses yeux brillaient dans la nuit comme de petites bêtes lumineuses, cependant qu'il sanglotait sa sourde et singulière litanie où revenait à chaque instant le nom de Galata, Galata, Galata. Il n'avait pas aperçu Pallas, qui restait caché derrière un arbre. Pallas disait « C'est un sorcier, c'est un piaille qui invoque Yolok ou Goudon. » Mais il n'avait aucune envie de l'interrompre dans ses prières. Tout à coup, le piaille fut entouré par une bande forcenée de peau rouge dont les ombres bondissantes paraissaient démesurées à Pallas et le remplissaient d'effroi. Elle semblait sauter aussi haut que les arbres, et les jeux de la lumière lunaire à travers les branches se prêtaient à toutes les imaginations d'un homme qui avait entendu toute la journée les légendes impressionnantes du satou. Il s'enfuit, persuadé d'avoir rencontré les terribles Oyarikoulés eux-mêmes, et il ne laissa de cesse à Chéri-Bibi qu'il ne fût réveillé. Celui-ci se laissa entraîner, encore à moitié endormi. Enfin, quand il fut réveillé tout à fait, le lendemain matin, et que les fugitifs furent laissés loin derrière eux cette contrée redoutable, « Me diras-tu enfin ce que tu as vu ?» questionna Chéri-Bibi. « Je te dis que j'ai vu les terribles Oyarikoulés eux-mêmes. Mais encore, ils dansaient comme des fous, prêts à tous les crimes, autour d'un sorcier qui se lamentait effroyablement en criant « Galata, Galata !» Hé, Pallas, c'était un pauvre homme qui pleurait sa femme qui venait de mourir, sa Galata, et tu as assisté tout simplement à une messe pour le repos de son âme. Que Goudon la protège et que Yolok nous en préserve. Tu t'étonnes pour peu de choses. » Le reste de la journée, le bandit prêta une extrême attention à l'aspect des lieux qu'il traversait. Son visage, vers la fin du jour, s'éclaira tout à fait. Pallas en augura que leurs affaires allaient de mieux en mieux. Ils avaient quitté le Pupu et remonté le cours d'une autre rivière dans la direction du nord-est. Chose singulière, la forêt ne leur était plus hostile. Toute chose, au contraire, semblait se prêter à leur dessein. Ils trouvèrent même une piste qui leur permit de faire un long chemin sans trop de fatigue. Enfin, vers le soir, ils arrivèrent au sommet d'une éminence boisée, d'où le bras tendu de Chéribibi put montrer à Pallas les placés et le village des prospecteurs d'or.